Alors, chers amis, il est 14h sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération anarchiste, et après Focalier, ce sera Tempête sur les planches. Alors, parlons du nucléaire. Hein. Vous êtes pour ou vous êtes contre le nucléaire? Si vous ne savez pas, allez à la librairie du Monde Libertaire, la librairie Publico. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir au sujet du nucléaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, déjà, à partir de 16h, aujourd'hui, un débat public sur le nucléaire, justement. Et puis, ça continue. À la fin de la semaine, jeudi, vendredi, 30 avril, 27 avril, 28 avril. Alors, le 27, commençons par le 27, à 19h30, notre ami L'Atome de Kenichi Watanabe. C'est un film, une projection, un débat en présence du réalisateur. C'est un film qui fait le récit de la cohabitation forcée avec l'industrie nucléaire en 5 chapitres et au fil de poignants récits de victimes. Voilà Kenichi Watanabe qui retrace un siècle de désastres sanitaires en dénonçant le silence et les mensonges d'État qui l'entourent. Ensuite, vendredi 28 à 19h30, titre Le Monde comme projet Manhattan, une rencontre débat avec Jean-Marie Royer. Alors là, il s'agit des laboratoires du nucléaire, la guerre généralisée au vivant, c'est-à-dire un récit de l'histoire du projet états-unien d'élaboration de l'arme atomique, ce qui est un projet, qui n'est pas un simple projet militaire et industriel, mais au fond, un projet de société. Et dimanche 30 avril à 16h, là, le titre est « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs ». Alors pourquoi la résilience, a priori, ce serait quelque chose de positif, sauf que, bon voilà. Et il y a une rencontre, débat avec Thierry Ribaud. Et de quoi s'agit-il? C'est que à partir d'un travail d'enquête et de recherche mené à Fukushima, durant plusieurs années, Thierry Ribaud orientera son intervention sur le changement d'approche qu'a constitué l'administration de ce désastre dans les politiques de gestion et d'acceptation de la catastrophe, à travers notamment ce qui a été nommé politique de résilience nationale, à Fukushima, au Japon. Voilà, donc, la librairie du Monde Libertaire, vous le savez très bien, je suppose, se trouve au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et les stations de métro sont Oberkampf, République ou bien Fille du Calvaire, ça vous le savez très bien, et ça vous savez aussi où vous pouvez trouver les informations sur Radio Libertaire, sur nos émissions, toujours sur internet radio-libertaire.org. Voilà, et là vous avez aussi l'agenda qui vous dit exactement de quoi il sera question dans telle ou telle émission, etc., dans les jours à venir. Voilà, et on va commencer Tempête sur les planches. Thank you.
Bonsoir mes chers amis, je devine que vous êtes tous aussi nombreux à vos postes, de TSF, d'autant que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître, quel auditoire sympathique et charmant.
I can't hide you the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said rock.
Oui, c'est au mois d'Hambourg. On commence une tempête sur les planches extraordinaires avec quelqu'un d'extraordinaire, Darina Al-Jundi, pour une petite reprise de son incroyable spectacle sur sa vie incroyable qui s'appelle Le jour où Nina Simone a cessé de chanter, et notamment le Cinnamon. Et on va continuer plus tard dans ce Cinnamon. Oh là, Darina Al-Jundi, la Darinissima, quel plaisir de te retrouver ici. Quelle surprise aussi, puisqu'il y a une reprise de ce spectacle. Moi, j'ai découvert ça, on s'est rencontrés. C'était, je pense, si mes souvenirs sont bons. Hein, bienvenue, Darina, Radio Libertaire, dans le studio Louise Michel. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça a dû être en 2017, au Festival d'Avignon, où tu as créé ce spectacle qui s'appelle « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter ».
Exactement.
Voilà. Et alors, je sors, je vais prendre un café quelque part, et puis quelqu'un a déposé des tracts, et j'ai dit « Tiens, mais je la connais !» Alors, du 3 au 5 mai, du coup, au Théâtre de l'Atelier, à Paris, dans le 18e, le jour où Nina Simone a cessé de chanter. Trois représentations exceptionnelles. Raconte-nous un peu comment tu es venu à reprendre le spectacle. Est-ce qu'il a eu une vie depuis, je ne sais pas, tu l'as évidemment beaucoup tourné, beaucoup joué ce spectacle, mais alors, jusqu'à quand à peu près? Est-ce que tu le fais encore régulièrement? Quelle est la vie de ce spectacle?
En fait, je l'ai joué, on l'a monté en 2007 au Théâtre des Halles avec mon metteur en scène et complice et partenaire de crime, Alain Timard. On l'a monté en 2007 pour Avignon pour la première fois. Puis j'ai fait une tournée avec, on a joué presque 500 fois ce spectacle. Une tournée vraiment mondiale aux États-Unis, en Europe, à Londres, en Belgique, en Italie, au Portugal, en Suisse, en France, partout. Dans Martinique, Guadeloupe, partout dans le monde. Et jusqu'en 2012, où on a démarré le deuxième spectacle, Alain et moi. Et puis en 2018, je l'ai rejoué au théâtre Liberté à Toulon, pour trois soirs. Et là, ça fait un moment où j'ai vraiment envie d'offrir comme un cadeau. Pour les amis qui l'ont jamais vu, pour les gens qui l'ont lu en livre ou en pièce, mais qui n'ont jamais eu la chance ou l'envie ou le moyen de le voir, je me suis dit, allez, moi, il me manque ce spectacle. Cette femme, Noun, me manque. Donc, allons, on va offrir trois soirées exceptionnellement au Théâtre de l'Atelier pour tous ceux qui l'ont pas pu le voir.
Bah bon, comme ça, je suis tombé dessus par hasard, avec grand bonheur. C'est clair que pour les trois jours-là, on ne peut pas alerter, mettre en marche tout un appareil de communication.
Exactement, exact. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire les pubs vraiment, les colonnes Maurice, les métros, les... même la presse. Vous savez, on en a tellement parlé de ce spectacle, donc c'est très dur de faire en reparler. Voilà, ouais. Et donc, c'est pas évident. En plus, trois soirs, on n'a même pas le temps de faire passer l'info. Donc, je fais comme d'hab, je fais seul. Je mets les affiches partout. Il y a plein d'amis qui me font un retour d'amour exceptionnel, qui m'aide à faire les tournées dans les arrondissements de Paris. Donc je mets les affiches moi-même, je colle mes affiches, mes tracts.
Comme au Festival d'Avignon.
Exactement, je continue comme une grande. J'adore faire ça parce que au moment où le public entre dans la salle, on a l'impression que j'ai payé très cher pour chaque personne qui rentre là. J'ai bien travaillé, quoi.
Mais bon, heureusement qu'il y a la radio, là, on peut se revoir, reparler. On pourrait aussi, quand on écrit, on pourrait dire à quel point c'était exceptionnel, émouvant, fou, ce récit d'une vie incroyable, rêvée, en quelque sorte, entre rêve et cauchemar.
Mais c'est un spectacle qui me rend tant d'amour jusqu'à maintenant. Les gens, même quand je vais mettre les affiches, il y a les gens qui reconnaissent le livre, il y en a quelques-uns qui ont déjà vu le spectacle, des gens qui l'ont pas vu et qui me remercient pour le reprendre, pour l'avoir pris la décision de le reprendre comme ça. Mais c'est un spectacle qui m'a ouvert, qui m'a rendu la douleur en amour, quoi.
Et entre ces centaines et centaines de représentations, tu as tourné donc beaucoup de films aussi.
Ah oui, j'ai fait beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de séries de radio, beaucoup de. J'ai fait le deuxième spectacle aussi avec Alain Timard. J'ai joué dans d'autres spectacles. Je fais beaucoup de lectures de poésie. J'ai beaucoup de films. Là, j'ai un film qui sort mercredi prochain.
Ah oui.
Dans deux jours, de Wissam Sharaf, qui est un réalisateur d'origine libanais comme moi, franco-libanais, que j'ai connu quand il avait 22 ans. Aujourd'hui, il a 50. J'ai fait avec lui deux de ses courts-métrages. Il en a quatre qui sont demain projetés à la Cinémathèque. Et mardi, on a l'avant-première. Mercredi, il sort en salle à Mkado Boubourg, qui s'appelle Dirty, Difficult, Dangerous. On avait fait l'ouverture à Venise cette année à la Journée de l'Autor et avec. C'est un film qui m'est très très cher. Un réalisateur que j'ai suivi, soutenu, défendu, aimé, que j'aime toujours, qui est devenu un grand ami. Et je crois beaucoup en lui en tant que réalisateur, personne et ami.
Wow. Tu es là, notre Isabelle Huppert franco-libanaise. Bon, c'est ça. Ça continue, c'est super. Écoute. Et après, oui, il y a le livre qui est sorti. Comment ça s'est passé? Donc, il est chez Actes Sud. Donc,
oui,
et Gariana Jouni et Mohamed Kassimi.
En complicité, on a fait ça. Mais j'ai fait un autre roman après que j'ai sorti chez Grasset qui s'appelle Prisonnière du Levant, qui raconte la vie méconnue de Maïs Yédé, qui est une grande femme du Levant. Le livre s'appelle Prisonnière du Levant, qui a vécu fin 19e, début 20e au Levant, qui était une grande militante, première femme à faire l'université du Caire. Elle avait un salon littéraire pendant 20 ans, mais elle a eu, elle était l'amante platonique de Gibran Khalil Gibran pendant 20 ans par correspondance, mais à la mort de ses parents et Gibran en 3 ans, une partie de sa famille va la faire venir au Liban soi-disant pour changer d'air, et c'est là où ils vont l'enfermer contre sa volonté. Elle va se battre, elle va vivre quelques jours, quelques mois très très durs, mais c'est une combattante, elle se bat et elle va gagner ses procès et reprendre sa vie. Donc je raconte cette histoire dans ce livre que je suis en train de travailler en plus en scénario pour adapté sur grand écran. Donc oui, plein de projets, plein d'aventures, plein de voyages, plein de films. Et je retourne toujours sur les planches. Et cette fois, on fait un avant-goût avec le jour Nina Simone a cessé de chanter à l'atelier. Mais j'ai d'autres projets avec Alain Timard. C'est vraiment, on a une complicité, une façon de travailler ensemble que tous les deux, on aime beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup Alain, c'est devenu un ami, mais surtout pour moi, c'est un grand réalisateur, metteur en scène, et j'aime beaucoup travailler avec lui, c'est
et
un plaisir.
Au théâtre Avignon.
Voilà. Ah oui, le théâtre des Halles, c'est grâce au théâtre des Halles et à Alain que j'ai pu monter ce spectacle, parce que le début, je lui ai envoyé le texte. Alain devait venir sur Paris, il a pris le train. On s'est retrouvés dans un café parisien à Châtelet. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai dit, je veux que tu le mets en scène, que tu me coproduis, que tu me donnes ton théâtre pour le Festival d'Avignon et que je joue le rôle. Il me dit, ah bon, rien que ça. Tu veux autre chose? Je dis, non, ça suffit. Eh bien, il a dit, oui, d'accord. Et ça a été une très belle aventure pour nous deux et pour tous les gens qui se sont, avec qui on était associés sur ce projet, comme Acte 2 qui est avec nous depuis le début.
Maintenant, on est évidemment en train de parler devant des gens que nous ne connaissons pas et qui n'ont peut-être pas vu le spectacle,
oui.
Qui ne te connaissent peut-être pas.
Oui,
non
sûrement.
Plus. Ça existe.
Donc, ça, sûrement.
il faut dire une chose déjà, c'est que c'est vraiment un roman autobiographique ou
je l'appelle fiction. Autofiction, plus. Parce que dans la vraie vie, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a des choses qui se sont passées beaucoup plus dures, il y a des choses que j'ai changées, il y a des mélanges de gens. Pour moi, ma vie, c'est une matière que je puisse dedans. Je dis toujours, je tisse ma fiction par mes vérités. Mais c'est des fictions, c'est une autofiction. Parce que ce n'est pas un documentaire sur ma vie, ce n'est pas une autobiographie.
Bah, il y a quelques fantasmes sont permis.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Et puis, ce sont des choses qui, évidemment, auraient pu se passer comme ça.
Ah oui, ouais. Ça c'est sûr. Il y en a beaucoup de choses qui se sont vraiment passées. Mais je mets ma vie ou la vie de ce que je raconte comme dans un bol comme ça. Je pioche, je prends, je change, je joue avec la réalité.
De toute façon, là... fille qu'on accompagne dans ce livre ne s'appelle pas Darina.
Dans la pièce, ouais, dans ouais, la pièce, elle ne ouais. s'appelle pas Darina. En fait, la pièce a été écrite avant le livre. Et c'est Actes Sud, pendant le Festival d'Avignon, qui sont venus me le proposer. J'ai dit oui pour une folle aventure qui est devenue aussi un grand succès. Mais dans la pièce, le personnage s'appelle Noun. Noun, c'est une lettre dans la langue arabe qui ressemble un peu à la forme du sein. C'est un demi-cercle avec un point dedans. Ouais. Et c'est la lettre qui féminise le verbe. Ça veut dire, si un verbe, on veut le transformer au féminin, on met la lettre « noun ». Et il devient un verbe au féminin. Donc j'ai choisi cette lettre, qui est une très 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 belle lettre, comme le prénom de ce personnage, qui est un peu mon alter ego, bien sûr. Mais c'est une femme que j'adore, parce qu'elle m'a accompagnée dans mon deuxième spectacle. Et il y aura un troisième volet aussi, hein.
Alors, ouais, ça c'est bien, on l'attend. Oui. Mais ce sera tout à fait autre chose. Ce sera une vie professionnelle. Là, on est dans une vie de folie, quoi, une vie sous les bombes. Il faut bien sûr qu'on parle un peu de cette histoire, de ton histoire, comme ça.
Oui, parce que je raconte aussi la guerre libanaise via cette histoire.
Oui, c'est l'histoire du pays.
Oui, exactement. Oui. Je mélange parce que moi, je suis né en 68. La guerre libanaise a commencé en 75. J'ai commencé à être comédienne en 76-77. Donc 8-9 ans, j'ai commencé à être comédienne et j'ai vécu toute ma jeunesse, toute mon enfance, toutes les premières fois de ma vie pendant la guerre. Et nous, les gens qui ont vécu la guerre aussi longtemps, 17 ans de guerre, on se rend pas compte qu'on est en train de vivre dans une guerre, parce que pour nous, ça devient la vie normale. On continue à aller à l'école, on continue à fêter nos anniversaires, à avoir un premier amoureux, à vivre, à travailler, à vivre. On croit normalement. C'est après coup qu'on comprend que c'était pas une vie normale, entre guillemets. une vie sous les bombes.
Ouais. Il y a un moment où tu dis quelque chose comme nous, il y avait des parties de poker et les fusils traversaient le salon.
Exactement, on vivait des folies. Et en plus, quand on vit aussi longtemps dans une guerre, nous, on n'allait plus aux abris, dans les abris. Pour moi, je rigole beaucoup sur les gens qui écrivent des projets sur les guerres, des films ou des pièces, qui n'ont pas vécu les guerres, parce qu'ils sont trop dans les clichés. Ils parlent toujours des abris. Alors que nous, qui ont vécu très très longtemps dans les guerres, sous les bombes, moi, après la première année, je suis jamais plus descendu dans les abris, quoi. C'est hors question. L'invasion israélienne, oui, parce qu'il y avait, c'était impossible de ne pas être dans les abris. Mais sinon, non, on voulait plus. On préférait mourir sur terre en buvant un whisky et éclatant des bouteilles de champagne et dansant sur les toits des voitures que d'être mort asphyxié dans un abri. Donc, on faisait les fêtes, on était des fous tarés. On défiait la mort, on défiait la guerre. C'est notre façon de se battre contre la mort, c'est de défier la mort. Donc, c'est une vie d'euphorie, de folie, d'extrême, de tous les extrêmes.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, alors, explique-nous un peu pourquoi Nina Simone a cessé de chanter ce jour-là.
C'est bien. Un moment précis dans la pièce, parce que toute la pièce, elle est basée avec cette chanson qui est Sennerman de Nina Simone, qui est aussi ma chanson préférée dans la vie. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, cette chanson. Je suis une grande, grande, grande fan de Nina Simone. Et dans les bars à Beyrouth, dès que je rentrais, les DJ mettaient Sennerman de Nina Simone comme pour me dire bonjour. Et donc, c'est une chanson qui m'a accompagnée toute ma vie, que je connais par cœur, même les respirations de Nina Simone dessus. Et dans la vraie vie, quand le DJ a mis cette chanson, un des plus grands traumatismes de ma vie s'est arrivé. Et ce soir-là, les gens continuaient à danser sur la musique de Nina Simone, alors que moi, j'étais cassée à ce moment-là. Et elle a cessé de chanter. Cette chanson s'est arrêtée dans ma tête et je n'ai plus pu écouter de la musique pendant 5 ans. Parce que la musique égale danse et liberté et joie. Et je n'étais plus ni dans la liberté, ni dans la danse, ni dans la joie.
Breaking rocks out here on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, 'cause they done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on chain gang, you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Yeah.
gonna see my sweet honey babe. Gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that I'd ought to get it. Been working and working, working and slaving and working and working, but a steal.
Voilà, on reprend Tempête sur les planches avec Thomas Dambourg et avec la Darina Aljoundi pour son spectacle Le jour où Nina Simone a cessé de chanter, qui va être repris pendant 3 jours, le 3, le 4 et le 5 mai, au théâtre de l'Atelier dans le 18e à Paris maintenant. Darina, bien sûr, tout ça, ça parle de ton enfance, de ta jeunesse, d'aventures incroyables. Mais tu parles aussi de ta famille, et c'est une famille aussi de gens extrêmement ouverts, de militants. On ne sait pas évidemment à quel point tu te construis le père que tu aurais aimé avoir, et à combien de pourcents c'est le vrai papa qui est comme ça, mais qui est lui-même une sorte de féministe qui soutient la quête de liberté des femmes dans un monde où il y a quand même énormément de répression. Et puis, il y a d'autres membres de la famille, donc une mère qui faisait de la radio, des émissions sur la poésie, un oncle poète aussi, je ne sais pas qui peut-être encore, etc. Donc oui, tu peux parler de ça un peu.
Oui, en fait, mon père était encore meilleur dans la vraie vie que dans le spectacle ou dans le livre, parce que pour des raisons de dramaturgie, j'ai fait comme un moment que je suis contre ce qu'il m'a fait, que je dis dans la pièce que je me suis révolté contre son éducation, comment il a pu m'éduquer de cette liberté-là au milieu de millions d'aliénés. Dans la vraie vie, je n'ai jamais regretté ce qu'il m'a donné comme éducation. Et dans la vraie vie, c'était lui qui m'avait dit, ça c'est vrai, à un moment donné, pars, je vais mourir bientôt, donc pars. Et à ce moment-là, je suis partie. Et quand il est mort, j'ai fait l'erreur. Il m'avait dit, ne reviens surtout pas si je meurs. J'ai fait l'erreur de revenir. Je suis revenue, et c'est là où le reste des membres de ma famille qui m'ont sauté dessus. C'est pas comme je raconte dans la pièce, hein. Dans la pièce, je dis quand j'ai coupé, le même jour, quand j'ai coupé le Coran, et le même jour, c'est arrivé. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Personne n'a osé me toucher au moment même où j'ai coupé le Coran, mais c'est 50 jours après la mort de mon père que ça s'est passé. Et c'était ma mère et mes deux sœurs. C'est pas juste des hommes, avec le mari de ma sœur. Donc là, je vous dis le truc le plus vrai. Dans la vraie vie, c'était plus dur. C'était beaucoup plus violent, c'était beaucoup plus choquant, parce qu'on est toutes pareilles dans cette famille, on a été élevées de la même façon, avec la même liberté, et que jamais je ne comprendrai pourquoi elles m'ont fait ça. Jamais. Jamais je pourrais oublier, même mon corps n'arrive pas à oublier, après 22 ans, j'arrive pas à oublier que c'est mes sœurs et ma mère. Ma mère restera ma mère, quoi qu'il arrive, mais elle a été, à ce moment-là, criminelle. C'est pas que non, c'est ma mère, non, je suis pas dans le monde de bisounours, non, je suis pas comme à ce point. Je connais pas le concept du pardon. Je connais la personne, elle continue à être ma mère en connaissance de cause, donc c'est pas en toute stupidité et connerie. Mais c'est encore plus dur dans la vraie vie.
C'est à elle de demander pardon.
Exactement, pour le lui donner. il faut le demander avant. C'est ce que j'ai toujours dit. Et donc, c'est dans la vraie vie, mon père a été encore plus beau, plus merveilleux que ce que je raconte dans la pièce. C'est vraiment pour moi le seul homme que j'ai jamais connu. Ce qu'il a pensé, il l'a dit et il l'a fait, dans toute sincérité et honnêteté. C'est peut-être le seul homme oriental, arabe, que je connaisse, qui n'a jamais trahi sa pensée, en tout cas envers ses filles. D'habitude, ils peuvent être libres pour les autres femmes, mais pas pour leur propre femme, pas pour sa fille, pas pour sa maman, pas pour sa tante, pas pour sa nièce, pas pour sa sœur. Là, c'est très différent. Avec mon père, non. Avec ses propres filles avant toutes.
Alors, parlons un peu de cet univers, donc la littérature, de la musique, de l'amour, de la culture aussi qu'il y avait.
Alors, en fait, toute la famille de mon père, c'est des poètes, des écrivains, ils étaient moi je les appelle des politiques romantiques. Il croyait vraiment pouvoir changer le monde. Jusqu'à la dernière minute, mon père y croyait. Moi, j'étais fascinée par lui. Et ses frères aussi. En fait, c'était une fratrie. Et ses origines sont syriennes. Il vient d'un petit village de la Syrie qui s'appelle Salamiyye. C'est un village vraiment exceptionnel. Je crois que ça vient de là. Cet amour de la musique, de la poésie, de la littérature, de l'art. C'est un des rares villages où les gens ne dorment pas tôt, où ils écoutent du jazz et de la musique orientale très 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 précise, de irakienne et jazz oriental aussi. Et c'est où tout le monde est poète presque dans ce village où il y a zéro d'illettré. Je crois que ça a commencé de là. Que lui et tous ses frères sont pareils. Ils sont tous dans l'art, dans la littérature, dans la musique, dans la beauté. Et il a continué à faire ça dans sa famille, à lui, quand il en a eu la chance d'en faire une.
Ouais. Alors, il y a la troisième partie, là, chapitre 3, où, on peut dire... Voilà. Beyrouth était une ville libre, l'oasis de tous les intellectuels arabes interdits de parole dans leur pays. Oui. C'était aussi la capitale de l'OLP. Les Palestiniens y faisaient la loi. Beyrouth était leur république. Beyrouth, c'était aussi un bordel avec les putes de Hamra et celles du port qui tapinaient aux alentours de Saint-Georges. Mon père passait sa vie entre la Dolce Vita à Raouché et le Horseshoe à Hamra. Il enseignait le matin, passait ses soirées dans les rédactions des journaux et achevait ses nuits à boire et à danser à l'Oncle Sam, à la Cave des Rois, au whisky à gogo. C'était la Dolce Vita. Il sortait tout le temps avec ma mère. Il faisait au pluriel, il faisait l'anouba tous les deux. Il n'a jamais caché sa femme, comme le font la plupart des Arabes. Il a écrit 13 romans et tous ses poèmes aux terrasses des cafés. Alors là, tu peux aussi nous dire son nom, parce que tu ne l'as pas encore dit.
Il s'appelle Asim, je vais le dire dans la vraie prononciation arabe. Asim al-Jundi. En français, ça se prononcera Asim al-Jundi, avec un A, deux S-E-M. Et mon père, Asim, c'était un écrivain, un journaliste, un prof de littérature arabe et de philosophie, un bon vivant. En fait, il n'était pas... ça veut dire, vraiment, je ne comprenais plus à la fin pourquoi on le pourchasse comme ça, parce qu'il a fait toutes les prisons du monde arabe. Hein. J'ai pas arrêté de le suivre d'un pays à l'autre, parce qu'il était exilé, où il fuyait une prison, où il a survécu à un attentat. Et tous ses frères, pareil, hein, c'est une famille... assez, comment dirais-je, banni de son pays, qui est à la base la Syrie. Il a trouvé refuge au Liban, comme beaucoup des intellectuels arabes à ce moment-là, des années 60 et 70. Beyrouth, comme je le dis, c'était vraiment l'oasis de tous ces gens. Oui, on a vécu que ça tout le temps avec lui. C'était un homme qui adorait avoir tout le temps les portes ouvertes, accueillir le monde qui l'entoure. On avait tous les grands poètes, écrivains, journalistes. On les côtoyait tout le temps. Ils étaient là. Il y avait toujours un musicien avec son hôte qui jouait, un autre qui chantait. Ça se peut prolonger jusqu'à 6 heures du matin. Moi, je restais toujours sous la table en train de les écouter, de voler des petits petits vers de partout pour.
Donc il écrivait beaucoup, à la fois comme poète, à la fois comme journaliste.
Non, il a écrit un recueil de poèmes quand il était en prison en fin des années 60 en Syrie. Et puis il n'a écrit que des romans et des livres. Il a aussi fait beaucoup de livres de documentation qui a transformé en romans sur l'histoire de la région. Mais il a écrit 13 romans, oui. Oui, oui.
Et son militantisme pour les Palestiniens.
Oui, c'était sa cause, la cause de
liens, quelques liens peut-être lointains avec Arafat aussi.
Non, il était très proche d'Arafat, et même quand il a eu son attentat, quand ils ont essayé de le tuer, c'était les services secrets syriens, il avait reçu une balle dans la tête, en bas de chez nous. À ce moment-là, c'est Arafat, parce que mon père, il venait d'une grande famille, mais son père, à lui, donc mon grand-père, a donné la moitié de tous ses terrains aux paysans qui travaillaient, parce qu'ils trouveraient ça injuste. Et ils viennent d'une région où il y a un peu le communisme. Avant le communisme, c'est des ismaélites à la base. Et les ismaélites, ils partageaient tout entre eux. Et donc, il vient de là, il vient de cet idéal-là. Et il a jamais cherché à faire de l'argent ou à avoir une fortune. Donc, il avait toujours rien. Et c'est à ce moment-là, il fallait qu'il reprenne vue. Et oui. Et c'est Arafat qui l'a envoyé en France pour être traité parce qu'il avait besoin d'un traitement qu'il n'y avait plus au Liban. Ouais. Et c'est comme ça, mais c'est le Parti communiste français qui l'a pris sous son aile et que c'est lui qui a payé toute sa facture.
Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans le livre.
Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. En 2007, je devais me marier à Paris, c'était mon dernier mariage, et j'arrive à la mairie, je vois qu'ils sont en train de trinquer du champagne, il y avait une vieille dame d'un certain âge qui me préparait les papiers, elle lit mon nom, Aljondi. Elle me regarde, elle me dit « Ah, c'est sympa ce nom. J'ai connu un monsieur en 81, je crois. » Il est venu ici, il était d'origine syrienne, il avait survécu à un attentat, et c'est moi qui avais pris soin de ses papiers. Je regarde, je dis, madame, vous parlez de Hassem Aljondi. Elle me dit, oui, oui, c'est exact, il est devenu mon ami. Je la regarde, je dis, c'était mon père.
Ouais.
Et elle me dit, c'est mon dernier jour, demain je prends ma retraite. Mmh. Et tu rentres. Et là, on s'est pris dans les bras. Donc, ce père, je crois qu'il laisse toujours. Il laisse pas les gens indiens quand il le rencontre. Il était un personnage, ce père.
Mais,
donc, oui.
Mais est-ce qu'il s'est remis de ses blessures?
Il a toujours, jusqu'à la fin de sa vie, il avait une partie de son corps, une partie droite, qui n'était pas à 100%. Il avait toujours un problème pour voir, c'était pas à 100%, ouais. Et aussi pour écouter. Et il avait toujours un trou ici dans la tête, derrière l'oreille, où il n'y avait plus d'os, c'était direct. Et il fallait faire trois opérations à la fin pour qu'ils lui font des implants ou je ne sais pas quoi. Mais il n'a pas voulu, il l'a laissé comme ça. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il avait la moitié de son corps qui ne fonctionnait pas à 100%, ni son œil, ni son ouïe.
Oui, non, mais les histoires.
Mais ils n'ont pas arrêté jusqu'à la fin de sa vie. On l'a mis en prison. 5 ans avant sa mort, et c'était une des raisons pour laquelle il a eu l'opération à cœur ouvert, et puis il est mort 3 ans après.
Tout ça est effrayant, c'est effroyable,
mais en même temps, c'est une vie, ça veut dire, et moi je suis j'étais une fille, je suis une femme aujourd'hui, qui a toujours aimé la vie, je suis une bonne vivante et j'ai croqué la vie, et même s'il y avait la guerre, au contraire la guerre nous a boosté, nous a poussé à aller encore plus loin. Donc il y avait, c'est ça ce que les gens disent tout le temps avec ce spectacle, c'est qu'ils sont à la fin un peu gênés par le rire, parce qu'on rit beaucoup, parce qu'on rigole tout le temps, parce que on vivait aussi.
Ouais. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en même temps, c'est quand même ses détracteurs qu'il a harassés, qui lui ont tiré dessus, etc. Il rend quand même en même temps hommage à sa pensée, à sa parole, parce que s'il y avait tout ça, c'est parce qu'il écrivait. Parce qu'il exprimait.
Ah oui, de cette optique-là, j'ai pas compris.
Ses paroles, ouais. Il était... Aujourd'hui, on nommerait ça un influenceur.
Non, on l'appelait un prisonnier pilote, politique surtout, ouais, parce qu'il serait en prison. C'est très différent. C'est des pays qui ne respectent pas...
sa parole, sa plume.
Ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, la liberté de l'expression. C'est pour cela qu'on fuit parfois nos pays. C'est pour avoir cette liberté, pour pouvoir parler, dire. Parce que là-bas, on nous jette en prison.
Oui, oui. Donc, ça revient au théâtre
de l'atelier. Le 3, 4 et 5 mai à 20h.
Il y a tellement de pépites. En fait, est-ce que... Bon, là, on a un livre de combien de pages là,
160
à peu près. Oui. J'imagine que le spectacle, c'est pas tout, ce texte.
Le spectacle a été écrit avant le livre. Ouais. Et c'est y avait beaucoup de choses que j'ai pas mis parce que je voulais 1h20, parce qu'un seul en scène, je voulais pas garder le public trop longtemps, l'épuiser. Et donc, j'ai coupé beaucoup des trucs. Et quand Actud m'a demandé de faire un roman, je dis oui, surtout parce que comme ça, je pouvais remettre tout ce que j'ai coupé de la pièce. Parce qu'on ne pouvait pas faire 4 heures. Et donc, c'est comme ça que j'étais même reconnaissante qu'ils m'ont demandé de le faire. Dans le spectacle, il y a des choses qui changent que du livre. Et si un jour je vais avoir la chance de le faire en film, ça va encore être une autre forme de récit de la même histoire. On connaît très bien, on change la forme du récit en changeant le support.
Alors là, il y a un épisode où mon père a retrouvé une place dans un journal. De nouveau, la maison s'est emplie de poètes, de musiciens et de journalistes. C'était le temps des petites guerres. Chaque altercation entre voisins tournait à la fusillade et au règlement de compte. On se bagarrait pour l'eau, l'essence, les fruits, le pain ou les femmes. Les parties de poker étaient souvent interrompues par des roquettes qui traversaient le salon. On n'y faisait même plus attention à la fin. À chaque accalmie, les forces syriennes soufflaient sur les braises. À côté de Fairouz, je découvrais Supertramp, Bob Marley, Led Zeppelin et les Pink Floyd. Je commençais à jouer dans une nouvelle série, dans le rôle de la fille d'un poète célèbre. Ah. Alors... Bon, oui, tu as commencé à faire de la scène ou du plateau à 8 ans. Quoi.
Oui, très 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 tôt. en fait, c'est ce qui m'a sauvée dans ce métier. Parce que quand on commence très tôt, on se rend pas compte, on comprend pas qu'il y a un public, on n'est pas très conscient de ça. On est plus libre, on est plus intuitif comme ça, on est plus vrai. Et on a le temps d'être cassé, de tomber, de se relever et d'avancer. Avoir les années qu'il faut pour l'expérience et devenir un peu le comédien qu'on aimerait être, si on y arrive un jour. Mais c'est une chance d'avoir commencé aussitôt. Et c'est, encore une fois, c'est mon père qui a cet ami producteur qui voulait que ma sœur aille chanter. Et c'est mon père qui m'a dit, mais prenez l'autre. Et c'est comme ça que j'ai fait le diable sur le plateau. Je savais pas que l'écran en face, c'était un écran qui diffuse ce qui est en train d'être diffusé. Et c'est comme ça que cette aventure de ma vie a commencé, parce que c'est devenu l'aventure de ma vie, la plus belle. Mais jouer sous les bombes, vivre une vie de comédienne, faire de la télé, de la scène pendant que les bombes tombent, ne pas pouvoir rentrer, dormir au théâtre, par terre ou dans les loges parce qu'on pouvait plus rentrer, ou bien la radio qui n'était pas très très loin de la maison. À la fin, ils ont construit un nouveau bâtiment, et ils ont fait des salles de douche, des salles pour dormir, parce qu'on devait parfois dormir à la radio, on ne pouvait même pas traverser la rue, tellement il y avait des bombes et des batailles à l'extérieur. Donc on continuait à vivre, il y avait des tournages, on tournait, on continuait à faire, au contraire, on travaillait même beaucoup plus pendant la guerre. C'est vraiment très bizarre. J'ai aucune explication, c'est une boulimie de la vie qu'on a pendant la guerre, parce qu'on sait qu'on va mourir. Donc on veut que chaque instant soit soit utile pour nous, qu'on fasse ce qu'on veut, comme on le veut, quand on veut, et jusqu'au bout.
Oui, il me semble que les gens qui se sont intéressés à la question ont constaté que, même ici aussi, en Europe, Deuxième Guerre mondiale, tu prends n'importe quelle guerre, pendant la guerre, les gens rient beaucoup plus. Oui.
Voilà. On danse beaucoup plus, on boit beaucoup plus, on mange beaucoup plus, on baise beaucoup plus, on rit beaucoup plus, on fait tout plus.
C'est tout sauf un éloge de la guerre.
Non, pas du tout. Au contraire, non, je connais la destruction. J'en paye toujours le prix. Parce que la destruction dedans, moi je la connais. Après tant d'années, je l'ai toujours en moi. Ça nous marque, c'est des séquelles à vie. On s'en sort jamais des blessures de la guerre.
L'humain a en lui quelques réflexes
de
survie.
C'est notre arme, c'est notre façon de se défendre contre cette mort, contre la guerre.
Écoutez Nina Simone encore beaucoup, et il n'y a pas que le cinnamon, elle a fait beaucoup de chansons absolument magnifiques. Donc Darina Al-Joundi est avec nous dans Tempête sur les planches avec Thomas Rambourg, et donc pour faire part de la bonne nouvelle le jour où Nina Simone a cessé de chanter, est repris pour 3 soirée hein, au Théâtre de l'Atelier à Paris, au métro Anvers, dans le 18e. Ce théâtre qui a été dirigé par André Barsac, grand homme de théâtre, et dont la petite fille est aujourd'hui une chorégraphe très intéressante. Et que dire d'autre? Oui, alors, dans le quartier un peu plus haut, là, il y a la rue André Barsac, et dans cette rue, Léo Ferré avait acheté un studio pour Radio Libertaire, le premier. Voilà. Donc, le théâtre de l'Atelier a aussi son histoire, sans que nous ayons aujourd'hui des liens avec ce lieu. Mais alors, on est d'autant plus heureux que tu puisses reprendre le spectacle. Maintenant, Darina, après qu'on a évoqué beaucoup de choses, mais il faut aller voir le spectacle, de toute façon, on ne peut pas parler de tout. Et justement, si on parle de ça, ça devient peut-être un peu brutal, parfois un peu tragique, etc.
Ouais.
Ça peut faire mal aussi, mais c'est mieux de le voir sur scène, avec l'énergie sur scène. Donc, mais dis-moi un peu comment Tu suis les événements au Liban aujourd'hui. Qu'est-ce que le Liban représente pour toi aujourd'hui? Beyrouth, où est-ce que tu es complètement coupé? Quel rapport est-ce que tu as à ce pays, à cette ville aujourd'hui?
Déjà, j'ai mes amis qui vivent là-bas. Je vais pratiquement chaque année, au moins une fois, parce que je fais beaucoup de tournages là-bas. Quand j'ai des projets à faire là-bas, j'y vais sur les tournages. J'écoute les infos tous les jours sur le Liban. Je regarde la télé libanaise à un moment de la journée ou de la soirée pour voir les infos. Je suis en contact quotidien avec mes amis sur place là-bas. Je connais très 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 bien la situation. Mais je dis toujours, on a ce qu'on mérite. Au Liban, on fait des élections. Et ces gens ont réélu les mêmes. Donc ils les veulent. Moi je suis partie parce qu'à un moment donné j'ai dit, moi je demande qu'on ne me change pas, donc pourquoi je veux changer les autres si moi ça ne me plaît pas de vivre comme ça. Donc c'est à moi de partir, eux ils sont contents. Et effectivement ils sont heureux. La preuve, ils ont réélu les mêmes. Mais les mêmes, c'est incompréhensible. Parce que c'est les mêmes qui ont fait la guerre, c'est les princes de guerre qui sont aujourd'hui là. C'est les mêmes qui nous ont tués, qui nous ont meurtris, qui nous ont bombardés, qui nous ont volés, qui nous ont violés, qui nous ont massacrés, qui nous ont égorgés. C'est eux qu'on a élus pour être nos gouverneurs. Et puis, quand la corruption a vomi ce pays, au lieu de les vomir, on les a réélus. Parce que la corruption ne vient pas d'eux. La corruption vient de plus petits Libanais au plus grand Libanais. Ça veut dire l'épicier, le pharmacien, le mécanicien, tous. On est tous corrompus là-bas. Personne ne lui demande de monter les prix de cette façon-là. Quand tu achètes des légumes au Liban qui sont plantés dans le jardin à côté, et ils te disent « mais le dollar est monté mais qu'est-ce que t'as à foutre avec le dollar ? T'as des radis que tu as plantés dans ton jardin. » Donc, il faut m'expliquer à un moment. Donc, tout le monde est corrompu. Tout le monde a été convaincus, et ils ont été dans les urnes, ils ont réélu ces gens.
Ah, il y avait une crise économique, des manifestations, il y avait l'explosion d'Olport.
Oui, et ils ont réélu les mêmes.
On se demandait, mais comment ils font pour continuer à vivre?
Non, si vous entendez aujourd'hui, les prix des légumes, des fruits, des trucs, c'est insensé. C'est insensé ce qui se passe, personne ne dit rien, il y a des embouteillages, les restos les plus chics, les plus chers, où tu dois payer 80 à 100 dollars par tête, ils sont remplis au point il faut 3 mois avant de pouvoir réserver. Mais carrément, les chalets de ski et les grandes trucs balnéaires, tout ça, c'est rempli, il n'y a pas de place, il faut vraiment attendre 3 mois pour avoir une réservation. Donc... ça a toujours été comme ça, ce pays, c'est absurde, c'est surréaliste. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à trouver le médicament, qui ont du cancer et des maladies dangereuses et qui n'ont même pas de médicaments pour se soigner, qui sont en train de mourir. Il y a des familles, ça fait 2 ans, qui n'ont pas vu la viande. Et tu as des gens encore qui payent pour un petit plat et un petit entrée, 100 dollars. C'est comme ça. C'est le pays.
Mais il y a encore, oui, il y a des tournages aussi.
Il y a des séries, surtout des séries. Ces temps-ci, comme partout dans le monde, il y a beaucoup de séries qui se tournent, parce qu'il y a des plateformes. Netflix, c'est aussi Netflix du monde arabe, mais il y a d'autres plateformes arabes qui sont comme le même concept, qui font la même chose et qui ont besoin ils disent content, du contenu. Et donc, il y a... une avalanche de tournages et de séries pour remplir ces plateformes qui n'arrêtent de diffuser ces séries popcorn. Moi, je les appelle séries popcorn. Elles font travailler les gens et il ne faut pas se plaindre, au contraire. Mais oui, ça, c'est comme ça.
Alors, revenons donc au théâtre.
Au théâtre de l'Atelier. Le jour où Nina Simone a cessé de chanter.
Voilà.
À votre avis, le film, on l'appellera Le jour où Nina Simone a repris à chanter?
Alors, le théâtre de l'Atelier se trouve place Charles Dullin, dans le 18e, métro Abbès, ou bien
Pigalle aussi. Pigalle aussi.
Voilà. Et ben, On est venez. Très, très contents, oui, venez, allez-y, on va, il y a, bon, sur internet, on trouve théâtre-atelier.com, oui. Vous avez le numéro de téléphone, 01 46 06 49 24, ça se trouve aussi, facilement, tout le monde peut tout trouver sur internet.
Exactement, de nos jours.
Qu'on ne trouverait pas. Ce numéro de téléphone, 01 46 06 49 24. Voilà, alors grand merci,
grand
Darina,
merci
d'être
Thomas.
Venue.
Merci de m'avoir accueilli.
Et bien sûr, les émissions continuent encore sur Radio Libertaire aujourd'hui. Et les autres événements dont j'ai parlé avant... commencer à parler avec Darina Al-Jundi, c'est que il y a quelques rendez-vous à la librairie publique ou la librairie du monde libertaire sur le nucléaire et les dangers du nucléaire, entre autres dimanche, donc 23 avril, tiens, c'est aujourd'hui. Alors voilà, une causerie populaire et libertaire dans une heure exactement, à 16h, une causerie, non, le nucléaire n'est pas écologique, est le titre de ça. C'est encore son moindre problème, peut-être, de ne pas être écologique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres problèmes, et on en discutera à la librairie du Monde Libertaire jeudi prochain, le 27 avril à 19h30. C'est une projection débat en présence du réalisateur japonais Kenichi Watanabe, un film qui s'appelle Notre ami l'atome, ce qui est bien sûr très ironique, et c'est un film qui fait le récit de la cohabitation forcée avec l'industrie nucléaire en 5 chapitres et au fil de poignants récits de victimes. Le réalisateur retrace un siècle de désastres sanitaires en dénonçant le silence et les mensonges d'État qui l'entourent. Ça, c'est le jeudi 27, ensuite le lendemain vendredi 28 à 19h30, une rencontre débat avec Jean-Marc Royer sous le titre Le Monde comme projet Manhattan, où il s'agit des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants. Le récit de l'histoire du projet états-unien d'élaboration de l'arme atomique. Et puis, le dimanche 30 avril à 16h, Fukushima au programme, au menu avec Thierry Ribaud, une rencontre débat à partir d'un travail d'enquête et de recherche mené à Fukushima durant plusieurs années. Voilà, donc la librairie Publico est fortement anti-nucléaire en ce moment, et c'est évidemment une nécessité, puisqu'on est dans une époque où on nous remet beaucoup ce nucléaire, sous prétexte qu'il y a la guerre en Ukraine et que maintenant c'est plus difficile d'avoir le gaz, etc. Mettons les pendules à l'heure à la librairie du Monde Libertaire.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans dieu ni maître.